Jésus est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Et en tant que pasteur, en tout cas, je suis particulièrement bien placé pour le croire. Mais il y a quelques années, j'écoutais une émission de radio, une émission religieuse, et c'était un pasteur, donc protestant, qui parlait. Et puis, bon, c'était intéressant, un peu curieux parfois, mais il termine sa prédication en disant qu'il ne croyait pas que Jésus était ressuscité, mais qu'il pensait que c'était plutôt une image, et qu'en fait, lorsque la Bible disait que Jésus était vivant, il fallait comprendre que l'enseignement de Jésus, ce qu'il avait apporté, l'amour, la paix, est quelque chose qui pouvait continuer à vivre dans les cœurs. Et moi, j'étais stupéfait. Parce que moi, par ma lecture de la Bible, si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, alors ma foi est vaine. Alors, il s'agissait d'un pasteur du courant libéral, du protestantisme, qui est un courant où on pense que la Bible dit des choses intéressantes, mais on choisit là-dedans que ce qui semble raisonnable. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, la résurrection de Jésus ne me semble pas raisonnable du tout. C'est quelque chose qui me dépasse, mais comme la création en elle-même, comment les choses peuvent exister? Et pourquoi l'univers est-il tellement grand qu'on n'arrive pas à le concevoir? Mais ce n'est pas parce que ces choses-là ne me semblent pas raisonnables qu'elles sont fausses. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. C'est ce que nous dit la Bible dans un passage que nous lirons tout à l'heure, qui nous dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Notre foi est vaine si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, bien des domaines nous échappent. Tu restes pour nous mystérieux, mais tu es un Dieu qui veut se révéler. Et même si nous ne comprenons pas un certain nombre de choses, nous avons confiance, Seigneur, pour recevoir ce que toi tu veux nous dire. Et toi, ce que tu nous dis, Seigneur, c'est que tu es vivant, que tu es ressuscité. Te prions, Seigneur, pour que notre intelligence soit ouverte, que nos cœurs ne soient pas fermés, mais que nous puissions, Seigneur, accepter ce que tu veux nous dire, que nous puissions te recevoir tel que toi-même tu te présentes à nous. Merci Seigneur parce que notre espérance est en toi. Notre espérance ne sera pas déçue car tu es ressuscité. Tout à l'heure, André nous a lu un texte de Luc 24 qui est le récit lorsque le dimanche matin, les quelques femmes disciples de Jésus vont au tombeau. Et les femmes découvrent que le tombeau est vide. Et puis ensuite, des anges annoncent ce qui s'est passé. Jésus est vivant. Et l'ange leur dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Mais je vous invite maintenant à écouter la suite du récit. Donc, toujours en Luc 24. Donc ces femmes qui viennent de découvrir le tombeau vide avec un ange qui leur dit « Mais Jésus est vivant, ressuscité !» Ces femmes repartent. Et à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11, donc les 11 apôtres, et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Alors, ces femmes sont bien connues des disciples, parce que certaines, comme Marie de Magdala et Jeanne, accompagnent Jésus et les apôtres pratiquement depuis le début du ministère de Jésus. Et pourtant, comment est-ce que les apôtres accueille la nouvelle de la résurrection de Jésus. Verset 11, il est écrit « Ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. » Les questions des apôtres. Les apôtres eux-mêmes considèrent que la résurrection de Jésus est une absurdité. Pourtant, à plusieurs reprises, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il ressusciterait. Et il avait même précisé le jour où cela se produirait. Luc 22, Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, le premier jour, le jour de sa mort, c'était vendredi. Le deuxième jour, donc, c'est le troisième jour, dimanche. Et justement, le dimanche, les femmes viennent annoncer aux apôtres, Jésus est ressuscité. Mais les apôtres ne crient pas, Alléluia, nous savons que ça devait se produire puisque Jésus l'avait annoncé. Non, ils refusent de croire ce qu'ils considèrent être des absurdités. Alors les ennemis de Jésus, eux aussi, avaient entendu qu'il avait promis qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais ses ennemis, bien sûr, ne le croient pas non plus. Mais ils se disent que peut-être que les disciples vont faire semblant. Alors qu'est-ce que font les ennemis de Jésus? Ils vont trouver Pilate, le gouverneur romain, et voici ce qu'il lui demande. C'est Matthieu 27 qui nous dit ça. « Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que les disciples ne viennent pas pour voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. » Alors s'il y a un point commun entre les ennemis de Jésus et ses propres disciples, c'est que tous ont de la difficulté à croire que Jésus puisse être revenu à la vie. Ça, c'est quelque chose que j'aime dans la Bible. C'est sa sincérité, son authenticité, et aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Les erreurs, les difficultés, les doutes de ceux qui sont censés marcher avec Dieu ne sont pas cachés. Et en particulier, la Bible n'a pas cherché à dissimuler que même les propres disciples de Jésus ont eu de la difficulté à croire qu'il était réellement ressuscité. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes si différents de ces disciples-là? Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de douter que Jésus soit réellement ressuscité? Peut-être même de faire comme ce pasteur libéral, de dire « mais c'est une image, Jésus vit dans les cœurs ». La résurrection est quelque chose qui semble difficile à croire. Ou alors peut-être que ça nous semble trop beau pour être vrai. Ce serait tellement beau si c'était vrai. Tellement beau que nous n'osons pas y croire. Eh bien, mes amis, ne doutons pas. Jésus est réellement ressuscité. Et c'est un fait établi. Jésus est revenu à la vie, et heureusement pour nous, car c'est seulement à cause de cela que nous pouvons avoir l'assurance d'avoir obtenu la vie éternelle. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Alors, si vous l'avez oublié chez vous, vous pouvez en emprunter une qui est au fond, là, sur le présentoir, des Bibles blanches comme ça. Puis, si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez aller dans l'entrée, vous en prenez une, et c'est l'Église qui vous l'offre. Nous allons ouvrir nos Bibles à la première lettre aux Corinthiens. Si vous avez une Bible de cette édition, c'est à la page 753. Alors, la première lettre aux Corinthiens a été écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens qui vivent dans la ville de Corinthe. Et c'est une lettre qui a été écrite environ 25 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, l'église de Corinthe est une église toute jeune. Elle a été fondée 4 ou 5 ans auparavant par l'apôtre Paul lui-même. Mais voilà, depuis que Paul est parti, des personnes qui ne connaissent pas Dieu se sont jointes aux véritables chrétiens. Et l'Église s'est mise à partir un peu dans tous les sens, dans ses mœurs comme dans ses croyances. Plusieurs choses qui autrefois avaient été enseignées et crues sont maintenant remises en question, et en particulier la réalité de la résurrection. Donc, si jamais vous voulez un texte qui parle de la résurrection, vous ouvrez 1 Corinthiens au chapitre 15, et là vous aurez un chapitre entier consacré à cela. Je vais commencer ma lecture au verset 1. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retournez dans les, si vous le retenez, pardon, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. La première chose que nous pouvons relever, c'est que l'Évangile, Christ mort pour nos péchés et Christ revenu à la vie, n'est pas une invention des premiers chrétiens qui auraient essayé de rebondir comme ils pouvaient après la mort de Jésus. Et nous avons vu tout à l'heure qu'ils ne risquaient même pas d'imaginer un tel plan qui ferait croire cela aux autres, parce que même eux, ça leur semblait incroyable. Christ mort pour nos péchés, Christ revenu à la vie, n'est pas une invention des premiers chrétiens, mais c'est une réalité prévue et voulue par Dieu avant le commencement du monde. Et c'est une réalité que Dieu avait annoncée aux hommes dans sa parole, bien avant que cela ne se produise. Oui, c'est une nouvelle tellement extraordinaire que Dieu l'avait annoncé des siècles à l'avance, afin que lorsque ça se produirait, nous puissions y croire. C'est ce que Jésus avait fait aussi pour ses disciples. Le troisième jour, je ressusciterai. Mais des fois, on est lent à croire. Christ mort pour nos péchés, Christ revenu à la vie, est conforme aux Écritures. Alors, est-ce que nous devons être surpris parce que Dieu réalise ce qu'il a promis ? Bien sûr que non. Tout ce que Dieu s'engage à faire, Dieu l'accomplit. Et l'Écriture annonce que Jésus va ressusciter. Et Dieu va faire en sorte que cela se produise. Mais ce n'est pas simplement l'Écriture qui nous dit cela. Et je poursuis ma lecture au verset 4. Jésus a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Historiquement, la résurrection de Jésus est prouvée. De très nombreux témoins ont vu que Jésus était revenu à la vie. Et vous rendez compte, lorsque Paul écrit cette lettre, il y a encore des centaines de personnes qui l'ont vu. Paul même en cite plusieurs. Si jamais ce n'avait pas été vrai, les gens se seraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, jamais nous n'avons vu ça. Si cette lettre avait été écrite peut-être 200 ans après, mais là, ça a été écrit à l'époque où les témoins visuel était encore vivant. Jésus est vraiment ressuscité. Et heureusement pour nous, parce que la résurrection de Jésus nous apporte la confirmation que nos péchés ont bien été pardonnés. Nous sautons au verset 17 qui nous parle de ce que serait notre situation si jamais Jésus n'était pas revenu à la vie. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi en lui ne sert à rien. parce que cela signifierait que nos péchés n'auraient pas été pardonnés. Nous ne serions pas sauvés par Jésus, mais perdus à tout jamais. Nous n'aurions aucun espoir dans la vie éternelle. Nous serions alors les plus malheureux du monde. C'est ce que nous dit le verset juste après. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si Jésus n'était pas ressuscité, ce serait terrible pour nous. Mais alléluia, Jésus est... Il est vivant, il est ressuscité. Et nous ne sommes pas à plaindre, mais au contraire, nous sommes heureux. Parce que verset 20, en réalité, Christ est ressuscité. C'est la résurrection de Jésus qui nous donne l'assurance que notre péché a été pardonné. En effet, Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a payé de sa propre vie le prix de notre péché. Mais qu'est-ce qui nous dit que son sacrifice a été suffisant? On peut se sacrifier pour quelqu'un, on peut donner sa vie pour quelqu'un, sans pour autant parvenir à sauver cette personne. Donner notre vie pour quelqu'un n'implique pas forcément que cette personne soit sauvée. Qu'est-ce qui nous dit que le prix payé par Jésus pour notre péché a été suffisant? Eh bien, c'est sa résurrection qui le prouve. Le fait que Jésus revienne à la vie nous donne l'assurance que notre dette, le prix de notre péché, a été intégralement payé. Cela prouve que le sacrifice de Jésus a été d'une plus grande valeur que le prix de notre péché. Et nous pouvons le comprendre si nous réalisons qui s'est offert en sacrifice pour nous. Jésus, alors Jésus, c'est un homme, Jésus le Fils de l'homme. Mais Jésus, ce n'est pas seulement un homme. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme. Et c'est ce que réalise Thomas, donc un des apôtres. Alors lui, c'est le plus sceptique des sceptiques, parce que tous ont fini par croire que Jésus était ressuscité, mais lui, hein, dit, mais si je ne le vois pas et que je ne le touche pas avec mes propres mains, je n'y croirai pas. Eh bien, Jésus entend cela, et Jésus apparaît à Thomas. Jean 20:2 nous dit, Jésus parle devant Thomas et lui parle, lui dit, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et qu'est-ce que s'écrit Thomas lorsqu'il réalise que Jésus est bien vivant? Il s'écrit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Parce que Jésus était pleinement homme, il a pu offrir sa vie en échange de la nôtre, une vie pour une vie. Mais parce que Jésus était aussi pleinement Dieu, la valeur de son sacrifice était infinie. Son sacrifice a été suffisant pour payer le prix de notre propre péché, mais son sacrifice d'une valeur infinie a également été suffisant pour payer le prix, pas simplement d'une personne, on espère que c'est nous, pas simplement d'une personne, mais il a été suffisant pour payer le prix du péché de tous ceux qui, au cours de l'histoire de l'humanité, auront foi en lui. Et une fois le prix payé par Jésus, alors les liens de la mort ne pouvaient plus le retenir. Aussi Jésus est ressuscité. C'est Actes 2:24 qui nous dit cela. Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Il n'était plus possible que la mort retienne Jésus. Le prix avait été payé, mais en plus, Jésus pleinement Dieu a la vie en lui-même. C'est ce que nous dit Jean 5:26. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus est vivant. Jésus s'est donné lui-même pour nous, et au prix de sa propre vie, il nous a rachetés afin de nous libérer de l'esclavage du péché. C'est ce que nous avons vu jeudi. Tite 2,14 nous dit ceci. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Il a payé le prix, le prix de notre péché. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Si jamais nous avons donné notre cœur à Jésus, si nous lui appartenons, si donc nous avons été rachetés par Jésus, alors notre espérance est certaine. Parce que même si la mort physique nous atteint, comme Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. C'est ce que nous dit le verset 20 de notre passage. Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Christ nous précède. Nous qui suivons Christ, Christ nous précède. Jésus est vivant. Et parce que Jésus est vivant, alors si nous demeurons en lui, nous avons l'assurance que nous aussi, nous vivrons pour toujours. Parce que Jésus nous a précédés dans la résurrection et unis à lui, nous aussi, nous vivrons pour toujours avec lui.